Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, l'actualité économique du jour. Voilà, Bercy va couper dans les aides à l'apprentissage, ça fait partie de la kyrielle des économies que nous apprenons jour après jour. Ce qui veut dire qu'un décret début mai mettra fin aux 6000 euros de primes accordées aux entreprises lorsqu'elles embauchent un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois en formation dans une entreprise et qui suit un enseignement dans un organisme de formation. À l'inverse, la prime LEDE mise en place en juillet 2020 est maintenue pour les apprentis en formation initiale. 91 000 contrats de professionnalisation sont visés. Alors évidemment, on pourra s'émouvoir du fait que dans cette course aux milliards d'économies, on décide de taper sur la formation, de taper sur l'emploi, de taper sur les jeunes, au moment où le taux de chômage de la France est l'un des pires de la zone euro, le troisième en partant du bas. Aujourd'hui, la rémunération de Carlos Tavares va secouer sérieusement l'Assemblée Générale de Stellantis. Trois associations d'actionnaires appellent à voter contre les 36 millions d'euros accordés au patron de Stellantis en 2023. Est-ce qu'il faut s'attaquer à l'emploi à vie ? La question est posée depuis quelques jours. Est-ce que ce modèle du fonctionnaire à vie est toujours adapté au monde d'aujourd'hui ? C'est un des éléments qui devrait figurer dans la réforme de la forme de la fonction publique, au même titre qu'un autre tabou, l'apparition peut-être du mot « mérite » à côté du mot « rémunération ». Et puis Bruno Le Maire veut réserver les aides à la rénovation pour les pompes à chaleur « Made in Europe ». Après la liste des voitures éligibles au bonus écolo, globalement les voitures qui ne viennent pas de Chine, eh bien désormais le protectionnisme s'habille en vert. Et à ce sujet-là, l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, publie une lettre, une tribune pour s'alarmer du décrochage de l'Europe face au tandem Chine-Amérique. Bonjour Fergan Aziari.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Olivier Babeau, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, vous avez publié La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buch et Chastel. On pouvait vous lire le 12 avril dans les colonnes du Figaro justement sur la question de l'emploi à vie dans la fonction publique. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, membre du Manifeste pour l'Industrie. Est-ce que vous ressentez la même émotion que moi en apprenant que dans cette course aux milliards d'économies totalement effrénées et un peu aveugles qui s'est ouverte à Bercy, eh bien on décide d'aller taper dans les aides à l'apprentissage, enfin un dispositif qui fonctionnait alors que pendant des années on se désespérait de voir l'apprentissage patiner, enfin un investissement efficace dans la formation des jeunes et pas forcément les jeunes les plus qualifiés, et voilà qu'on décide par décret, on a annoncé hier cela au syndicat, eh bien de tailler dans une partie des aides accordées aux entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. Vous êtes ému, Daniel Lang,
allez-y. Moi je veux bien commencer.
Allez-y, parce que moi j'ai trouvé ça pas à sa place. Ne tue pas le dispositif, mais on l'affaiblit avant peut-être d'autres décisions.
Je suis d'accord avec vous, Nicolas, mais j'aimerais replacer ça dans le cadre plus général. Là, on est de nouveau en train de faire de l'austérité dans une période où, on est... Oui, bon, alors, c'est pas de l'austérité aussi drastique que ce qui a été fait dans les pays du Sud en 2010-2011, mais on est de nouveau en train de baisser la dépense publique au mauvais moment, et notamment, on baisse tout ce qui est dans la formation, on baisse aussi les budgets qui vont aux laboratoires de recherche et aux universités qui sont déjà exsangues, et maintenant on tape sur la formation. Je pense que dans les 160 milliards annuels qui vont aux entreprises, il y avait certainement d'autres sources d'économie que celle-là. Clairement, c'était un dispositif qui marche. Ça fait des années qu'on se plaint en France que l'apprentissage ne fonctionne pas suffisamment bien. Pour une fois, c'est un dispositif qui, d'après moi, allait dans le bon sens. Ben, on coupe dedans. Voilà. On coupe dedans, bêtement, inutilement. Je ne dis pas que tous les 160 milliards annuels qui vont aux entreprises sont illégitimes, mais il y avait certainement d'autres dispositifs beaucoup plus coûteux et beaucoup moins efficaces à remettre en cause. Bon. J'aimerais rappeler quand même que le CICE, à l'époque, c'était 260 000 euros par an et par emploi, ce qui était extrêmement cher.
On peut rappeler que sur le montant que vous citez de ce qu'on appelle les aides aux entreprises, il y a à peu près pas loin de 100 milliards d'allègements de cotisations sociales.
Oui, bah voilà,
le modèle social.
Je ne suis pas pour les allègements de cotisations sociales.
La dépense publique ne peut pas être comparée aux allègements de cotisations. C'est-à-dire, en ce cas-là, effectivement, tout impôt qui n'est pas levé est un manque à gagner pour l'État, si on raisonne ainsi. Donc, mais c'est vrai que, bon, pour revenir à ce que vous disiez, Nicolas, oui, on a l'impression, effectivement, que on a un gouvernement qui peine à situer les priorités en matière de génération. C'est-à-dire que l'apprentissage, en effet, ça fait des années qu'on nous dit qu'on est en retard sur cette question. Le chômage, il faut le rappeler, a longtemps concerné les personnes les moins qualifiées en France.
Pour C'est toujours le cas.
Vous
80% des chômeurs n'ont pas le bac ou le niveau bac.
Exactement, vous avez parfaitement raison. Les non-qualifiés sont surreprésentés parmi les chômeurs pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, quand vous avez un droit du travail qui est assez restrictif, ça tue l'employabilité des moins qualifiés. Donc l'apprentissage était un moyen, il faut le dire aussi, de déroger à pas mal de minima sociaux. C'est l'avantage du contrat de professionnalisation qui permet d'embaucher des gens en dessous d'un certain niveau de SMIC. Je n'ai plus le pourcentage en tête, mais en tout cas, ça permet de déroger aux minima sociaux. Et donc c'est vrai que taper sur ce dispositif-là, c'est vraiment le signal qu'on envoie un signal comme quoi l'avenir, en fait, on se fiche complètement de la jeunesse, alors même qu'il y a des dépenses, des leviers beaucoup plus efficaces à envisager. Je rappelle simplement que l'indexation des retraites en début d'année...
Je ne l'ai pas dit en introduction, je me suis dit je vais vous laisser la
première. Mais c'est parce que...
Vous pourrez réagir si vous voulez aussi sur l'indexation des retraites.
Voilà, oui, donc on a...
14,5 milliards cette année, après 5,3% d'indexation des pensions sur l'inflation décidée pour 2024.
On donne 14 milliards aux catégories les plus riches du pays, il faut le rappeler, pour ensuite faire les fonds de tiroir auprès des catégories les plus précaires. Quel message ça envoie pour un gouvernement qui se veut le gouvernement de la jeunesse et qui, en réalité, est un gouvernement au service d'une certaine gérontocratie. Et le problème, c'est que ce n'est pas seulement une préoccupation qui est franco-française, c'est un problème auquel sont confrontés tous les pays européens aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en France, 60% de l'augmentation de la dépense publique ces 6 dernières décennies est imputable aux seules retraites. Ce sont les retraites qui expliquent principalement notre différentiel de dépenses publiques entre la France et les autres pays de l'OCDE.
Les retraités, je valide, c'est vrai.
Les retraités forment aujourd'hui en France les catégories les plus riches du pays, ce qui n'est pas en soi une anomalie, puisqu'il est parfaitement normal que celui qui a épargné pendant 40 ans ait plus de patrimoine que le nourrisson qui vient de naître. En revanche, effectivement, on a un problème d'inéquité intergénérationnelle en raison du fait qu'on a fait le choix d'un système par répartition, qui est un régime, un jeu à somme nulle, alors même que... Si nous avions fait le choix d'un système de retraite fondé davantage sur l'épargne et la capitalisation, on aurait pu avoir un jeu à somme positive entre les générations d'hier et celles d'aujourd'hui. Et c'est bien sur ce système-là qu'il faut se pencher si nous prenons la question des finances publiques au sérieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aucune force politique, évidemment, n'ose aborder cette question parce que personne ne veut affronter cet électorat qui est surreprésenté parmi les votes.
Donc c'est la politique qui l'enlève. On va laisser Olivier Babot réagir. On reparlera de cette histoire de capitalisation. Peut-être que les mots doivent être réinventés, mais l'histoire est de moins en moins tabou. Olivier, par rapport à ce qui a été dit, je sens que Dany Lang boue après avoir écouté Fergan, mais on va...
Complètement.
Moi, voilà. Et un conflit d'intérêt, il est proche de la retraite.
Je suis nettement réjoui que le débat...
Il n'est pas proche de la retraite. Je remarque une chose... Moi, je veux bien...
Par rapport à moi, je veux dire...
Non, mais d'ailleurs, Fergan, je veux bien... Ce débat, on l'a très souvent sur est-ce qu'il n'y a pas un mauvais arbitrage intergénérationnel. La plupart de ceux qui argumentent, comme vous argumentez aujourd'hui, sont des gens qui, globalement, sont assez loin des 50 ans. Plutôt.
Non, mais pardon, voilà. On a quand même des arguments.
Des arguments que connaît bien Olivier Babot.
On a quand même des données, mais Olivier va aussi les préciser, le taux de récupération, le taux de.
Oui.
Enfin, tout ça, il y a quand même des vraies questions qui se posent objectivement.
Mais on a un choix, il y a un choix français d'avoir des retraités qui sont bien traités.
Je note que je note avec plaisir que le débat a escaladé rapidement, parce qu'on a eu gérontocratie au bout de moins de 30 secondes, donc c'est formidable. Et puis la retraite par capitalisation, je suis d'accord, il faut la rebrander, il faut une nouvelle étiquette. Moi, je propose épargne longue. C'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour les gens.
Prévoyance.
Voilà. Épargne longue, prévoyance. Voilà, on pourrait
prévoyance,
trouver un mot super bien.
C'est un peu épargne.
Et d'ailleurs, entre parenthèses,
c'est vachement important le choix des mots.
Les riches, ils font la capitalisation depuis très longtemps.
Oui,
et
les fonctionnaires.
Débat, c'est pas faut-il la capitalisation, c'est faut-il donner accès à la capitalisation aux gens les plus modestes. C'est
tout
la vraie question. Et là encore.
Le débat aussi, Olivier, c'est faut-il que la cotisation par capitalisation soit une obligation mensuelle ? Et là, on a un petit sujet de transition entre le moment du départ et le moment où ça tourne à plein régime.
Et puis, taux de cotisation globale aujourd'hui à cause de la répartition. Mais alors, attends, on parlait pas de ça au départ. Alors,
oui, on parlait pas de ça. On parlait de la prime des 6 000 euros pour les... Prime.
Alors là, effectivement, je plus sois à tout ce qui a été dit jusque-là, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a une forme de gestion un peu comptable, une gestion un peu malencontreuse, puisqu'on ne coupe pas là où il faudrait couper les dépenses. On coupe là où on peut les couper.
Oui.
On peut dire, c'est on
facile,
coupe pas là où ça fait le moins mal. On coupe là où ça crie le moins. C'est-à-dire que là où électoralement, c'est moins compliqué, ce qui quand même pose un problème. Alors oui, il y a des effets d'aubaine dans ce dispositif, mais enfin, c'est quand même très paradoxal. Quand le dispositif ne marche pas, ça veut dire qu'il foire. Ah bah, il coûte pas très cher, on va pouvoir le garder. Quand le dispositif fonctionne, ça veut donc dire que bon, il remplit une fonction. Ah bah non, bah, ça coûte trop cher, on va l'enlever. Bah, c'est quoi cette politique de gribouille? Et malheureusement, ça traduit ce qu'on est nombreux à dire, c'est qu'aujourd'hui, l'impasse budgétaire est telle qu'en fait, toutes les politiques, toutes les décisions vont se lire à l'aune de la nécessité de gratter des milliards. Voilà. Bercy est en permanence sur sa tour de contrôle à essayer de voir où est-ce qu'il va pouvoir trouver. On va raboter. Et malheureusement, quand on rabote, c'est pas toujours aussi intelligent, aussi utile, aussi efficace à long terme qu'on le voudrait. En termes intergénérationnels, oui, c'est redoutable. Les arbitrages qui sont faits sont redoutables quand vous regardez d'un côté le pouvoir d'achat des retraités, que j'adore, hein, par ailleurs. Et moi, effectivement, j'en suis beaucoup plus près que Fergan, même si je suis plutôt au milieu de carrière. J'ai bien calculé.
Enfin, je suis encore relativement loin, même si j'ai dépassé le milieu de carrière.
J'ai fait mon calcul, c'est 68 ans, 70, hein, moi. Parce que forcément, quand t'es universitaire, tu commences à travailler très tard.
Hein, ouais, donc, bah, à réforme constante.
C'est violent.
À réforme constante.
Oui, encore.
Attends un petit peu.
Mais je pense quand même qu'effectivement, l'emploi des jeunes, c'est quelque chose sur lequel on ne devrait pas transiger. Alors peut-être qu'il faut voir le dispositif le plus efficace, mais c'est pas un très bon signal.
J'ai pas le souvenir, je vais faire réagir Dany sur tout ce qu'on a pu dire. Ça fait quand même longtemps que je suis l'actualité économique, j'approche les trois décennies, on observe à ce poste de vigie la trajectoire budgétaire annuelle tous les ans. J'ai rarement vu un gouvernement nous sortir 20 milliards d'euros complètement mort de faim à peine le mois d'avril arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une année budgétaire où on s'est retrouvé pris à la gorge à ce niveau-là.
Donc je suis trop jeune, moi.
Et j'ai du mal à penser que ce soit simplement le verdict des agences de notation du 26 avril qui soit l'unique moteur.
Non.
Bon,
non.
Alors, Dany, sur tout ce qu'on a dit, là, parce que.
Sur tout ce qu'on a dit.
On n'a que des chiffons rouges partout, là.
Oui, là, pour
et
moi.
Et puis j'ai l'emploi à vie qui nous attend.
On est d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas toucher à ce dispositif. C'est déjà ça. Après, on a des accords. La nécessité de couper. Je suis désolé, quand ma voiture n'avance pas assez vite, j'appuie pas sur le frein pour la faire repartir. Ça n'a pas de sens dans le contexte actuel. Les coupes dans les dépenses publiques ne sont pas nécessaires, elles sont contre-productives. Soyons clairs. Bon, ensuite, sur la retraite par capitalisation...
Attends, on va au bout de l'idée dans ces cas-là, Dany Long. Elles sont contre-productives, ça veut dire que pas à côté de ça, vous oubliez toute trajectoire et tout engagement que vous avez pu prendre vis-à-vis de vos partenaires.
Attendez.
Quand vous constatez vous avez des dérives de déficit qui dépassent les 0,5 sur un an, vous
c'est jamais le moment de réduire les dépenses publiques, en France, de toute façon.
Non, mais jamais. Plus on réduit les dépenses publiques, plus le déficit va dériver. On l'a vu dans les années 2010, souvenez-vous, Nicolas, tous ces gouvernements qui ont coupé, ils se sont retrouvés avec des déficits et des dettes beaucoup plus importantes que prévu. Donc, parce qu'à la fin, ça a des effets sur l'économie réelle. Donc, ça a des effets sur l'économie réelle. Donc, et en plus, on coupe dans des. Il n'y a pas que l'apprentissage. Il y a les universités, il y a les hôpitaux, dans des secteurs dans lesquels il ne fallait vraiment pas couper. C'était la dernière chose.
Que les 904
millions et la culture aussi. La ministre de la Culture a une réaction admirable. Je ne suis pas un grand fan d'elle.
Allez-y.
Mais quand on a coupé dans son budget,
oui, j'ai vu ça.
Elle a été très mécontente et elle a parfaitement raison. C'est un des secteurs où le multiplicateur de la dépense publique est le plus important. Donc, 1 euro enlevé de dépenses publiques dans la culture, ça peut être jusqu'à 25 euros enlevé dans l'économie. Ça, il faut faire très attention. Bon, indépendamment de ça, Fergan plaide pour la retraite par capitalisation. On est en désaccord complet. Moi, je reprendrai le
titre. C'est un vrai contradicteur.
Un ouvrage de Frédéric Lordon qui est fonds de pension piège à con. Parce que c'est vraiment.
Ah bon, moi, ça a le mérite d'être.
Ce qui veut.
Un bon
non, mais ce qui veut.
C'est ta posture, honnêtement.
Bon, vous allez réagir, Fergan. Je vous ai laissé parler.
Allez-y, Dany.
Moi, je ne vous ai pas interrompu. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi finir.
Pardon.
Donc, sur ces histoires de. Maintenant, en fait, leur idée, c'est de taper. D'opposer les générations. Alors qu'au sein des générations, il y a de très fortes disparités. Et notamment, les retraités français, d'accord, dans l'ensemble, ne sont pas maltraités. Mais il ne faut pas oublier que le patrimoine que possèdent les gens, pour la plupart d'entre eux, il n'est pas acquis pendant leur vie. C'est quelque chose dont ils héritent. pour l'essentiel. Et notamment, il y a de fortes disparités au sein des retraités et au sein de la même génération. Moi, je ne suis pas favorable pour qu'on tape sur les retraités. Je suis pour qu'on ait des politiques...
On a tapé les patrimoines.
Donc les retraités.
Non. Qu'on ne tape pas sur les retraités, mais au moment de l'héritage, qu'on ait un impôt qui soit beaucoup plus progressif, et notamment qu'on revoie le barème de l'IFI, qui très franchement est ridicule. L'impôt sur la fortune immobilière, et il est complètement ridicule, et il favorise l'absence de mobilité sociale. Si on veut donner une perspective aux jeunes, il faut aussi qu'on leur donne la perspective de pouvoir un jour accéder à quelque chose. Je suis désolé, mais aujourd'hui, vous pouvez travailler très dur toute votre vie, y compris quand vous êtes cadre, vous n'accédez plus à un patrimoine. Donc ça me paraît un problème infiniment plus urgent que de jouer nos retraites.
Mais c'est lié, en fait.
Les retraites... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu.
Allez-y.
Je demande une fois de plus de cesser de m'interrompre. Donc, sur les retraites, les fonds de pension, c'est jouer la retraite au loto. Il faut être très clair.
Je voudrais juste réagir parce que moi, ce discours, j'en ai vraiment marre quand j'entends de quelqu'un de la gauche radicale, parce que vous appartenez à ce camp-là.
Je ne suis pas de la gauche radicale.
Si. Non, ça fait 150 ans que les socialistes.
Je ne laisserai pas dire ça.
Les économistes atterrés, c'est pas vraiment ultra-libéral.
Les économistes atterrés sont
pas en sommeil aujourd'hui. Non,
ça fait 150 ans.
Je suis désolé.
Vous avez cité Frédéric Lordon.
Oui, j'ai cité Frédéric Lordon. Oui, comme je l'ai cité à l'heure.
Ça fait 150 ans qu'on nous explique à gauche que les actionnaires se gavent, que le du capital est outrancier, et quand on nous dit qu'il faut ouvrir le statut d'actionnaire à tout le monde, on nous dit c'est trop risqué. Il y a un moment où il faut choisir son discours. Ou bien vous considérez en France que les dividendes sont trop généreux et donc vous devriez vous battre pour que les travailleurs aient accès à ces dividendes qui font scandale à chaque fois qu'ils sont versés, ou bien vous considérez que le capital n'est pas généreux, mais dans ce cas-là il faut arrêter de taper sur les actionnaires. C'est-à-dire que vous pouvez pas à la fois taper sur les actionnaires en disant ils se gavent et dire fonds de pension. Raison pour laquelle en réalité vous faites ça, c'est que quand on lit la tradition, quand on lit la littérature socialiste, quand on lit les textes de Marx, on se rend compte en réalité qu'il y a toute une frange de la gauche qui redoute l'embourgeoisement des travailleurs, qui ne veut pas que les travailleurs aient accès au capital, parce que dès lors que tout le monde est actionnaire de tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de tenir un discours anticapitaliste. Dès lors que, en effet, les revenus des uns et des autres est indexé sur les performances des entreprises sur la bourse, dès lors que tout le monde effectivement est capitaliste à sa petite échelle, c'est beaucoup plus difficile de critiquer le capitalisme. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a toute une frange de la gauche qui ne cesse de taper sur les capitalistes tout en empêchant que les gens le deviennent. Il y a une forme de perversité que moi ensuite sur la notion du loto. Enfin, je suis désolé, on est quand même en France le pays de Thomas Piketty qui a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que là encore le capital bénéficie d'un rendement outrancier. Le titre nous explique que sur 2 siècles on a un rendement du capital qui oscille entre 3 et 6% par an, et c'est pas un jeu à somme nulle. Donc il n'y a aucune raison valable de s'opposer à la capitalisation dans ces conditions-là, sauf si on veut en effet que les prolétaires restent pauvres et n'aient pas accès au patrimoine. Vous pouvez pas à la fois me dire qu'on a du mal aujourd'hui à accéder au patrimoine et refuser les fonds de pension qui est un moyen de favoriser l'accumulation patrimoniale chez les travailleurs. Tout ça c'est contradictoire. Je suis désolé.
Olivier, vous voulez dire un mot au milieu là ?
Non, je me suis d'accord avec tout ça.
Bon. Qu'on me fasse pas qu'on ne me colle pas des étiquettes que je n'ai pas. Je n'ai absolument pas ces intentions-là en tête, que ce soit clair.
Oui.
Je réfute l'accusation d'appartenir à la gauche radicale.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, mon souci, c'est que le système des fonds de pension fait que quand, déjà, on donne un pouvoir excessif aux agents de notation qui peuvent noter des choses qui sont très mauvaises, on en a l'expérience, on leur a donné un pouvoir excessif à ces agences, elles le savent. Donc, et puis, par ailleurs, on crée des fonds énormes qui vont influencer la politique du pays. On se prive donc d'une manière d'influencer, de choix politiques qui devraient être de l'ordre de la démocratie. Et par ailleurs, je suis désolé, moi j'ai pas peur que les gens s'embourgeoisent. Au contraire, je ne demande qu'une chose, qu'on augmente les salaires pour que les gens qui sont en bas de l'échelle sociale puissent monter. Donc, faites pas dire des choses que je n'ai pas dites ou que je ne pense pas.
Vous n'êtes pas d'accord. Alors, je dois reconnaître à Danny Lang qu'ils sont bien des sujets. Il n'a pas du tout des positions traditionnelles qu'on entend de la part des professeurs d'université plutôt à gauche. Voilà. Il a quand même des avis nettement plus mesurés.
Il y a quelques hérétiques
pour l'entendre. Oh,
c'est une blague.
Nicolas m'écrit, j'ai 77 ans et pour moi, Fergan a tout à fait raison. Voilà.
Ah.
Et d'autres réactions, 100% d'accord avec Fergan. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Il y a Robert m'écrit, taxer l'héritage revient à taxer des biens qui proviennent de revenus qui ont déjà été taxés. Enfin, imaginez que la croissance de l'économie, c'est la croissance des dépenses publiques, c'est soviétique, m'écrit Robert.
Non, en fait, alors on a vécu en URSS dans tous les pays du bloc
Certains ont tendance à dire avec ironie que le modèle économique de la France est un modèle soviétique qui a réussi. Hein.
Qui s'effondre moins vite, très exactement.
Ouais.
C'est plutôt ça ce qu'on dit.
Si la prospérité d'une nation était fonction de ses dépenses publiques, ça se saurait un petit peu quand même.
Mais
on
serait le pays le plus riche du monde depuis très longtemps.
J'entends ce que vous dites sur les patrimoines et sur les successions. Ce sont des discours que j'entends aussi de la part d'autres économistes qui ne sont pas du tout de la même famille de pensée que la vôtre.
Oui, je sais.
On a 45% en France en ligne directe et 60% en ligne indirecte.
Non, mais arrêtez.
Ça, c'est l'impôt sur le revenu là que vous citez.
Non, les successions.
Non,
c'est pas. On a 45% en ligne directe, mais c'est comme je vous le dis.
Mais
évidemment.
Vérifiez. On a un niveau de taxe.
Quand mon père est décédé, j'ai hérité d'un bien.
Non, mais à partir d'un certain niveau.
200 000 euros, j'ai payé zéro impôt.
Ça dépend du
montant. Il y a une décote par enfant.
Mais ça dépend du montant.
Donc les grosses successions, c'est 45%.
Ça dépend du montant de patrimoine, mais effectivement, le taux marginal de la taxation lors des successions est considéré en France comme l'un des plus élevés du monde.
Je suis désolé, il n'est pas assez progressif.
Bon, il n'est pas assez progressif. Et moi, Fergan
qui se réclame du libéralisme, il y a beaucoup de fondateurs du libéralisme, Adam Smith, qui était pour la confiscation complète de l'héritage.
C'est pas vrai ça.
Mais vous prenez Frédéric Bastiat qui était pour le travail des enfants.
C'est un sujet chez les libéraux. Frédéric Bastiat n'a jamais été pour
le travail des enfants et contre la taxe.
Le problème, c'est pas taxer l'héritage. Le problème, c'est que nous, on a choisi de le taxer à tous les moments. C'est-à-dire que souvent, on donne des exemples en disant ah oui, mais un tel, à un moment, ils ont eu un très haut impôt sur le revenu. D'autres disent ah oui, mais là, ils ont eu très haut impôt sur l'héritage. En général, ils ont fait un choix à un moment. Nous, le problème, c'est qu'on le taxe au moment où on le gagne, on le taxe au moment où on le garde, au moment où on le transmet et au moment où on consomme. À tous les niveaux, on taxe. C'est ça le problème, c'est qu'il faut regarder quand même la somme, même si elles sont essaimées au cours de notre vie et de notre mort.
Un mot sur l'héritage.
Oui, mais c'est très rapide, là.
Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, il dit que l'altruisme intergénérationnel et les motifs de perpétuation familiale du capital, c'est l'un des moteurs principaux de l'accumulation. Lui-même le reconnaît. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru, avec la théorie du cycle de vie issue de Franco Modigliani, que les gens épargnent essentiellement pour eux et pour leur retraite. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas, que la transmission, c'est un des moteurs de l'accumulation patrimoniale. Et donc, si vous dissuadez les transmissions, vous dissuadez l'industrie et l'épargne. Voilà. Et donc, vous faites vous peser aussi, vous sabotez la croissance.
Moi, j'ai toujours en tête un rapport de France Stratégie que j'avais trouvé assez éclairé sur nouvelle manière.
On pourra le commenter une autre fois si vous voulez, mais il y a pas mal de billets qui étaient assez discutable. Quand on se plaint du retour de l'héritage après 60 ans de paix et qu'on ne comprend pas que la fin de l'héritage était le fruit des deux guerres mondiales, il y a déjà un biais. C'est-à-dire que oui, quand les générations ne détruisent pas leur patrimoine sans cesse, il est normal que le stock de patrimoine accumulé augmente. Ça s'appelle le temps qui s'écoule.
On marque une pause. Si vous voulez en dire encore un mot, on pourra, mais j'aimerais qu'on parle de Carlos Tavares. C'est l'une des actualités économiques du jour, puisque sa rémunération va quand même faire parler lors de l'Assemblée Générale de Stellantis. C'est vrai que 36,5 millions d'euros en 2023, c'est une forte augmentation, et c'est très très au-dessus de la plupart des rémunérations des patrons du secteur automobile, que ce soit en Europe, et même d'ailleurs si on compare avec les rémunérations des patrons de Ford ou de General Motors. Il y aura de la résistance lors de l'AG de Stellantis aujourd'hui. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec aujourd'hui Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, qui a publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, auteur de La tyrannie du divertissement, Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Buchet-Chastel. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord et qui fait partie des animateurs du membre du manifeste pour l'industrie. Il y a plein de réactions. Débat passionnant, me dit Marie.
Ah, comme quoi.
Ben voilà.
Passionné en tout cas. Un peu de clash de temps en temps.
Alors, ça fait 10 ans que M. Tavares est à la tête de Stellantis, enfin ce qui est devenu Stellantis. Il doit y avoir 8, 9, 10 marques chez Stellantis. Les principales étant évidemment PSA, Citroën, Chrysler, Fiat. Mais on doit pouvoir citer Maserati de mémoire, Jeep. Enfin, il y a des quantités de marques maintenant dans cette entreprise. Le redressement de la boîte est absolument spectaculaire. Sauf qu'il affiche pour 2023 une rémunération. Alors, il faudrait décortiquer tout ça. Il y a du fixe, il y a du variable, il y a des actions avec exertion de l'action à terme si les performances sont atteintes. C'est toujours assez complexe, la rémunération. C'est pas un salaire, voilà. Reste que c'est un montant très élevé. On n'a jamais vu ça dans le secteur automobile. C'est quasiment 7 fois au-dessus de la médiane de ce qu'on constate chez les patrons de l'automobile en Europe. C'est également supérieur aux rémunérations des grands patrons de l'automobile aux États-Unis, que ce soit Ford ou General Motors. J'ai cherché ce matin les rémunérations précises, j'ai pas trouvé les chiffres, mais enfin, on est vraiment au-dessus. L'un des arguments avancés par Stellantis, c'est de dire que l'essentiel du chiffre d'affaires de Stellantis est réalisé hors d'Europe, 70%, et que donc tout ça ne pose aucun problème. Reste qu'il y a quand même des associations, Proxinvest, pour citer la plus célèbre d'entre eux, qui ont décidé de s'opposer aujourd'hui à cette rémunération. Ça ne changera pas grand-chose, car l'entreprise est de droit néerlandais, ce qui veut dire que le vote des actionnaires ne sera que consultatif et ne remettra pas en cause, quoi qu'il arrive, le montant que j'ai cité. Olivier Babot, est-ce qu'il y a des arguments pour considérer qu'il n'y a rien... Pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir.
Alors, comme ça va être beaucoup attaqué, j'ai envie de me mettre du côté de la défense. Voilà. Parce que je sais qu'il y aura des procureurs suffisamment sur tous les plateaux, donc j'ai envie de me mettre sur le côté de la défense. Même si je dois commencer par dire que je regrette que la décision de l'Assemblée Générale ne soit que consultative. Je pense que, mais ça c'est le droit néerlandais, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il faudrait, parce que je suis pour la transparence, je suis pour des indicateurs qui soient liés à la performance, et à ce moment-là, après, c'est aux actionnaires de dire si c'est normal qu'ils soient payés autant ou pas. Malheureusement, probablement, ça sera pas le cas, et on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense? En effet, depuis 10 ans, la croissance a été extraordinaire. Que quand Carlos Tavares a pris les commandes de PSA à l'époque, c'était une entreprise moribonde.
Elle grillait du cash.
S'il y a bien une illustration,
c'est vrai,
du fait que la valeur ajoutée d'un bon dirigeant, c'est de permettre à des centaines de milliers d'employés, et puis à des clients derrière, et puis à tout un écosystème, finalement, de réussir là où il aurait pu échouer. Et que finalement, c'est pas cher payé. Si vous regardez par rapport à l'espèce de succès que ça produit, et qu'il vaut mieux avoir effectivement quelqu'un qui va être payé plus cher et qui va réussir, plutôt que quelqu'un qui va être payé moins, mais qui va échouer. Si vous comparez maintenant, alors, son fixe, ça n'est que 2 millions. Hein, mais 2 millions, c'est déjà relativement élevé. J'ai dit que 2 millions. Enfin, j'aimerais bien aussi, mais ça n'est que 2 millions. Après,
à 2 millions, on doit être à peu près dans la moyenne des patrons du CAC sur le fixe.
Oui.
Je crois qu'on est plutôt dans le 1,5 million sur le fixe.
Alors, il faut savoir qu'en France, on est très mal payé par rapport aux États-Unis. Hein.
En général,
aux États-Unis,
oui,
est plutôt.
Il y a un différentiel important, voilà. C'est vrai, par rapport aux grands patrons américains. Je ne sais pas si la comparaison
est bonne. Unissez-vous.
On est quasiment à un multiple de 400 aux États-Unis, un peu plus. Chez nous, on est beaucoup, beaucoup plus bas. Si on regarde la patronne de General Motors, c'est quand même le groupe qui est le plus proche, en fait, en termes de concurrence. On n'est vraiment pas très, très loin. En 2022, on n'a pas le chiffre encore 2023, mais en 2022, c'était 29 millions de dollars.
Oui,
donc vous voyez, on était à peu près dans la même idée. On est très, très loin d'Alphabet à 226 millions de dollars en 2022, ou même d'Oracle à 138 millions.
Alphabet, c'est la maison mère de Google.
Oui, c'est Google. Bon, alors, effectivement, c'est de la tech, on va dire, c'est très spécial. Mais regardez combien cette industrie est difficile. Je trouve que ce qu'on ferait mieux de commenter plutôt que la rémunération. Et encore une fois, je veux dire, si elle est baissée ou. Je ne défends pas spécialement Carlos Tavares, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais au lieu de regarder la rémunération, on parlait de ce qui a fait le succès stratégique, des décisions qui ont été prises dans ce marché si difficile. C'est ça qui ferait, je trouve, qui serait plus intéressant pour l'opinion de comprendre comment une entreprise peut redresser la barre, peut réussir et comment, quelle stratégie il a suivi. Je trouve que si on utilisait les temps de débat pour commenter ça, je trouve que collectivement on y gagnerait beaucoup plus. Voilà, parce que c'est toujours un peu stérile ces histoires.
Effectivement, en France, je rappelle que si l'Assemblée Générale dit non à une rémunération, elle est retoquée.
Voilà.
Oui.
Et donc c'est une bonne chose. Une entreprise.
C'est une bonne chose, oui, les actionnaires de droit français.
Oui, absolument. Non, mais oui. La parole est aux actionnaires. C'est courageux de chercher effectivement à être l'avocat de la situation.
J'ai toujours défendu les rémunérations des patrons. Non, j'ai trouvé que c'est un faux débat. Mais voilà.
Bon, moi, je peux réagir.
Alors, vous avez le droit de réagir, Dany Lang.
Sans être traité de soviéto nostalgique de la Pologne soviétique et de voilà. Non, mais
je vous ai absolument pas dit que vous étiez soviéto.
Non, pas vous, mais bon, c'est ce que j'ai entendu ce matin.
J'ai dit gauche radicale.
Non, oui, bah voilà, la gauche radicale pour moi.
Connaissant pas mal d'économistes, Dany Lang n'est pas du tout radical.
Il y a plus radical que ce soir.
Nathalie Arthaud, quoique elle ne raconte pas que des conneries toujours, les profs d'économie, c'est pas pour rien. Bon, pour en revenir au sujet, j'entends que, effectivement, à la tête de PSA, M. Tavares, enfin à la tête de PSA, le consortium qui a remplacé.
C'est une nébuleuse énorme,
PSA, de cette nébuleuse.
Moi, grâce à son travail.
Heureusement qu'avec un salaire pareil, il a fait du bon boulot quand même, parce que très franchement, j'ai jamais été contre le fait qu'il y ait un éventail des salaires. Après, cet éventail des salaires est devenu déraisonnable par rapport à ce qu'il pouvait être il y a quelques années, pas en Union soviétique, mais dans les pays capitalistes. Je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, en moyenne, un dirigeant d'entreprise gagne 250 fois ce que gagnent ses salariés, c'est un chiffre BFM, ou si on regarde certaines associations, 300, 350 fois, ça n'a pas de sens économique. Dans les 30 Glorieuses, on était à peu près à 30 fois, on se portait pas plus mal. Je pense que quand on gagne 30 fois ce que gagne un smicard, on est déjà capable de gérer correctement les choses. Voilà. Donc, une fois de plus, mon gros problème, c'est les patrimoines, c'est pas les salaires, mais un tel salaire, déjà, je trouve pas normal que là, on est d'accord que l'Assemblée Générale ait pas son mot à dire là-dessus. Et moi, je serais favorable à ce qu'on limite de tels salaires. Et il y a beaucoup de patrons qui gagnent. Alors, il y a une très forte disparité entre les grands patrons, quand même. Mais il y a beaucoup de patrons qui gagnent des salaires qui sont excessifs par rapport à leur performance.
J'ai un auditeur qui me dit accélérer les vidéos. Je pense qu'il y a une faute de frappe. Il doit vouloir parler d'Atos, j'imagine. Bah, il préférait un Tavares à la tête de la boîte, même très bien payé.
Mais c'est quelqu'un qui fait le job.
Ah non, mais les compétences de Carlos Tavares sont absolument pas remises en cause.
Non, mais ça, personne ne le remet en cause. Mais effectivement, on préférerait que certains patrons qui ont des salaires tout aussi délirants soient tout aussi compétents. Bon, ça, c'est vrai.
Alors, il faut bien rappeler qu'on parle de une poignée de mandataires
sociaux. Bien sûr.
Qui sont à la tête d'entreprises multinationales et que ça n'est absolument pas le reflet de la réalité de la rémunération d'un patron français, même d'ETI
d'ailleurs. Bien sûr. Les ETI, c'est autour des 4000 balles.
ETI, on arrive heureusement à monter un peu plus par mois. Heureusement, on arrive quelquefois à être au-dessus de 4000 euros par mois. Je crois que les PME, effectivement, on est dans les 3500 par mois en moyenne.
Oui, c'est ça. Comme ça, c'est totalement normal.
Bien sûr.
C'est même pas assez.
Voilà. Ferrand Aziari.
Non, je suis pas très à l'aise à l'idée de commenter. En tout cas, une décision interne à une entreprise, c'est leur choix. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même un petit message à adresser à ceux qui pensent que les patrons français sont trop payés. Enfin, si c'est vraiment le cas, et peut-être que c'est le cas, moi, j'en sais rien. Il y a une solution très simple, c'est que vous montez une agence de chasseurs de tête. Vous cherchez des PDG plus compétitifs, tout aussi compétents pour moins cher. Je pense que si vous proposez à une entreprise quelconque un PDG aussi compétent et moins cher, a priori l'entreprise ne va pas dire non. Et vous empocherez une petite commission généreuse. Donc moi je lance cet appel à tous ceux qui sont en croisade contre la rémunération des grands patrons. Lancez-vous sur le marché des chasseurs de têtes, trouvez des talents aussi bons, plus compétitifs, et vous allez voir, vous allez vous faire un pognon de dingue et vous allez faire des économies aux actionnaires, parce que je ne crois pas.
Parce que vous croyez que c'est des gens.
Je ne crois pas que les actionnaires, veulent volontairement surpayer leur PDG. A priori, si les actionnaires d'une entreprise payent généreusement son PDG, c'est qu'elle estime plus ou moins, à tort ou à raison, que ce PDG va rapporter plus d'argent qu'il ne coûte en salaire.
À côté de ça, alors j'ai pas refait la liste là, parce que ça m'aurait obligé à chercher dans pas mal d'archives, mais il y a eu ces dernières années pas mal d'assemblées générales qui ont dit non à des rémunérations, y compris d'ailleurs en dehors de France, dans des pays anglo-saxons où on peut se dire que la rémunération du patron ne pose jamais problème. Je crois bien qu'une année, celle du patron de BP a été recadrée.
Tout à fait.
C'est arrivé
comme quoi, voilà, une entreprise appartient à ses actionnaires, et sont les actionnaires
actionnaires qui décident les rémunérations des uns et des autres.
Oui, mais les actionnaires sont différents. Enfin, vous ne pouvez pas faire comme si l'actionnariat, c'était que des petits actionnaires qui n'étaient pas d'accord.
Mais il n'y a pas que...
Il y a une raison pour laquelle ces actionnaires rémunèrent généreusement le PDG. Ce n'est pas complètement arbitraire, voyez-vous.
Vous faites comme s'il y avait un marché libre des PDG et que n'importe qui pouvait candidater. Ça ne marche pas comme ça, vous savez très bien.
Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire si vous payez un prestataire généreusement, c'est que vous estimez a priori qu'il rapporte quand même un peu plus que ce que vous le payez.
Je pense que les patrons de PME font tout aussi bien le job.
Et s'ils se trompent, c'est eux qui
le... Je pense que les patrons de PME de TI font tout aussi bien le job et ils sont payés beaucoup moins.
J'ai observé depuis quelques années que cette fameuse question, les patrons sont-ils trop payés, est de moins en moins posée. Qu'il n'y a pas eu de scandale de prime à l'échec comme il a pu y en avoir il y a quelques années, avec des patrons qui partaient en laissant la boîte
dans une situation
absolument catastrophique.
C'est facile, les indicateurs de court terme, de les gonfler, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y avait la prime à l'échec. C'est très facile, vous endettez la boîte à mort, pouf, vous faites monter tous les ratios financiers, et derrière, prends l'oseille et tire-toi.
Les choses ont progressé.
Oui, ça c'est vrai.
La parole des actionnaires a réussi quelquefois à mettre à bas des rémunérations jugées excessives
par rapport
aux performances.
Je le reconnais.
Et les fameuses primes à l'échec que j'ai toujours trouvées absolument intolérables n'existent plus. Alors, je ne sais pas si le code AFEP-MEDEF, qui n'est un texte, une sorte de code de bonne conduite exclusivement consultatif...
Je pense que ce n'est pas que la bonne conduite.
Petit à petit, les choses progressent. Bon, on verra ce que donnera cette Assemblée Générale. Et évidemment, encore une fois, le vote ne sera que consultatif. Il y a pas mal de tabous que le gouvernement, ces derniers jours, a tenté d'attaquer. Alors, ça a commencé avec Stanislas Guérini, qui a mis le mot « mérite » derrière le mot « rémunération », tandis que se prépare une réforme de la fonction publique. Ça s'est poursuivi avec l'idée que, pareil, le fait d'avoir accès à un logement HLM à vie quand on était trop riche, ou quand on avait des revenus qui avaient progressé, eh bien, il fallait quand même se poser la question de savoir s'il n'y avait pas un ménage à faire. Et puis, là, le dernier en date, c'est l'histoire de l'emploi à vie, du statut de fonctionnaire. Et vous avez pris la plume le 12 avril, Olivier Babeau, pour dire qu'effectivement, le modèle du fonctionnaire à vie avait vécu.
Malgré un conflit d'intérêts. Ce qui est courageux.
Alors, cela étant, je plaide contre ma paroisse. Donc, limite, on devrait peut-être interdire aux fonctionnaires de défendre les fonctionnaires, mais je suis plutôt pour un changement. Alors, je ne sais pas si le cachet, je serais concerné, mais oui. Aujourd'hui, quelle est la situation? En fait, personne n'est content. L'attractivité des métiers publics est en chute libre. En particulier dans l'éducation, tu es obligé de faire du speed dating, tu es obligé de prendre les gens dans les tréfonds des classements, plus personne n'a envie d'être fonctionnaire. En tout cas, tu as l'impression que c'est le truc. Donc ça c'est jamais bon signe hein, quand une profession n'attire pas, c'est quand même évidemment pas très...
Mais plus précis Olivier, on a eu certaines matières de CAPES où il y avait plus de places disponibles que de candidats.
Bien sûr.
Ce qui veut dire que vous êtes
plus à fournir les postes.
Vous finissez par baisser le niveau de sélectivité parce que vous n'avez plus personne pour assurer les postes.
En face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui ont l'impression de payer de plus en plus pour un service public qui est de plus en plus dégradé. C'est Fipeco, donc c'est notre excellent François Eckel qui a très bien montré l'augmentation de la fonction publique beaucoup plus rapide que l'augmentation de l'emploi privé, beaucoup plus rapide que l'augmentation de la population. Si on prend en base 100, je prends en 1997, je cite de mémoire, mais enfin la population elle doit être à 105 aujourd'hui et en fait c'est la l'emploi des collectivités locales qui a le plus augmenté et l'emploi dans la santé. Est-ce qu'on a l'impression que les choses vont mieux? Pas du tout. Donc, le système ne fonctionne pas d'une certaine façon. Et l'autre idée très importante, il faut que les gens réalisent, quand vous recrutez aujourd'hui un fonctionnaire, vous le recrutez autour de 24 ans, sur concours, d'ailleurs en général sur des critères très très scolaires, une fois qu'il est recruté, qu'il est titulaire, vous l'avez sur le rôle de l'État pendant 43 ans. C'est-à-dire que ça ne va plus bouger. Et après, en plus, avec la pension de réversion, c'est quasiment un siècle que vous allez le garder. Donc, en fait, c'est un engagement extraordinaire. Et ça veut dire quoi? Que vous êtes sûr d'avoir besoin de sa compétence exactement pendant quasiment un demi-siècle. Et puis en face, que lui, il est sûr d'avoir envie de faire la même chose pendant quasiment un demi-siècle. Mais est-ce que ça correspond au monde d'aujourd'hui?
Alors, un fonctionnaire a la possibilité de quitter la fonction publique.
Oui. Exactement. Est-ce que, c'est vrai, on peut
mais par contre,
personne n'est obligé de rester.
Effectivement, des licenciements purs et simples, comme on les connaît dans le privé.
Faut se lever tôt.
Il y en a.
Il y en a, mais quasiment pas.
Il y en a deux, et pour des fautes très graves.
Et il faut évidemment. Mais non, mais on laisse terminer.
Pour terminer juste, il ne faut pas que le mot. Le mot de licenciement, forcément, il a un ressenti négatif. Je pense qu'on ne peut pas poser cette question sans reposer beaucoup plus largement la question du statut du fonctionnaire, de la façon dont on va évoluer. Aujourd'hui, il y a une très mauvaise gestion des ressources humaines chez les fonctionnaires. carrière. Il y a souvent très peu de perspectives de carrière, très peu de possibilités de vraiment évoluer. C'est pas motivant. Donc les gens viennent pas. Alors si tu veux que les gens viennent, si tu veux vraiment que ça soit quelque chose qui soit attractif, il faut essayer de repenser un petit peu. Toutes les entreprises aujourd'hui se sont rendues compte qu'il y a eu un changement dans le rapport de force. Ce sont pas elles qui recrutent, c'est les jeunes qui vont recruter l'entreprise parce qu'ils sont en rapport de force. Et ben l'État, il est dans la même situation. Il faut qu'il soit en mesure d'attirer les plus grands talents. Et aujourd'hui, vous avez des besoins qui vont évoluer de plus en plus vite. Il faut toujours rappeler qu'on est sur une exponentielle d'évolution technologique qui va changer très profondément l'économie, la société, probablement aussi la politique. Et si l'État n'est pas capable d'aller aussi vite, eh ben il va le faire, ce qui arrive déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va laisser l'initiative de l'évolution du monde à des sociétés privées qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, c'est ça. Et en fait, elle ne sera que la voiture balai de la mondialisation en essayant de colmater ici et là. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État se transforme, soit beaucoup plus rapide.
Si ça veut dire qu'il faut se transformer. Si je pousse votre raisonnement, et je ne suis pas loin de penser que l'un des points de départ de la fameuse réforme de l'État que nous n'avons jamais vue est probablement une remise en cause du statut de la fonction publique, évidemment avec clause du grand-père, car sinon c'est impossible de faire autrement. Mais bon.
Sauf dans le régalien, où ça se défend.
Je ne sais pas si on ira au bout d'ailleurs de cette réforme de la fonction publique, tant les tabous sont sévères, parce que là ils sont lourds.
Pour aujourd'hui, je suis plus désaxé par rapport au plateau général que certaines fois. Hein. Il y a des fois où il y a beaucoup plus d'accords, y compris avec des gens qui ne sont pas des néo-soviétiques comme moi. J'entends ce que dit Olivier Babeau. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'attractivité. Moi, j'ai passé mon CAPES en 2004 quand j'ai eu en fin de thèse. On était quand même plus de 1000 candidats pour 20
postes.
Pour 20 postes.
Ah oui, oui.
Et j'ai le décroché et je l'ai utilisé pour rester dans le supérieur. Donc, voilà. J'entends ça. Mais l'attractivité, c'est pourquoi ? C'est pas parce que vous avez un statut à vie. Le statut à vie, c'est la contrepartie des mauvaises conditions de travail aussi. On pourrait déjà commencer par un peu mieux rémunérer ces personnes. Puis après, il faut pas oublier, si un emploi dans la fonction publique ne vous correspond pas, vous pouvez toujours partir. C'est ce qu'a fait mon père. Il est en fonction publique, il s'est ennuyé, il allait créer une boîte. Voilà, ça vous pouvez le faire. Vous pouvez parfaitement le faire quand vous voulez. Donc, si les gens s'ennuient dans la fonction publique, etc., ils seront coincés. C'est vrai qu'il faut créer des perspectives de carrière plus attractives. Mais moi, quand j'entends mérite dans la fonction publique, je vois aussi un peu ce qui se passe depuis que j'y suis. Le mérite, c'est souvent le copinage, en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est souvent, on promeut un tel ou un tel. Ça se passe bien, par exemple, à l'université, qui est le monde que je connais le mieux, dans le public, parce que j'étais pas mal dans le privé avant, à l'université, on promeut pas les meilleurs, on promeut les copains. Ça doit passer par des instances. À l'université, on a le Conseil national des universités qui fait le job. Ça devrait passer par des instances nationales et paritaires. Voilà. Si vraiment on veut faire du mérite, il y a déjà beaucoup de soi-disant mérite dans la fonction publique. C'est surtout du copinage. Et il ne faut pas oublier que dans la fonction publique, on a aussi beaucoup de CDD, de gens qui multiplient totalement illégalement des CDD. Les entreprises se seraient déjà fait tilter si elles avaient fait la même chose. Donc, l'emploi à vie, c'est une contrepartie des mauvaises conditions de travail. Il ne faut pas l'oublier.
Mais vous parlez de hausse de rémunération.
Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, les professeurs du secondaire, un certain nombre de gens qui occupent des fonctions qui, chez nous, sont des fonctionnaires, soient infiniment mieux payés. Évidemment, dans les universités, c'est le cas, mais il y a beaucoup d'autres endroits où c'est beaucoup moins évident, où les conditions de travail sont mauvaises, et il n'y a même pas la contrepartie d'avoir la sécurité de l'emploi. Et puis, à un moment où on se pose la question du travail des plus de 50 ans, que Ferdan appelle les vieux, donc à un moment où on se pose la question du travail des plus de 50 ans, est-ce qu'on va aussi commencer à licencier les fonctionnaires de plus de 50 ans? Et est-ce que la solution ne serait pas plutôt de mettre encore plus l'accent sur la formation tout au long de la vie, autrement que par le compte CPF où on nous emmerde avec des publicités par téléphone?
Oui, on est d'accord.
Dany Lang, on ne pourra pas augmenter l'ensemble de la rémunération de la fonction publique en augmentant en même temps les effectifs sans arrêt. On a fait plus de 66 000 recrutements en 2023.
Ça n'a pas de sens.
Bon, alors, oui, mais en même temps, il y a des besoins dans la justice, dans l'éducation.
Oui, mais ça dépend des branches.
À d'université, enfin on est dans un état
d'accord,
délabrement.
Mais est-ce que, voilà, la question est, parce qu'il y a quand même maintenant sur le, il y a 5 700 000 fonctionnaires, mais il doit y avoir 20% de contractuels quand même, dans ces 5 700 000.
Et puis il y a de plus en plus mais de contractualisation.
A-t-on besoin de conserver un statut de fonctionnaire aujourd'hui? On sait pourquoi il a été créé, est-ce qu'aujourd'hui il a du sens? La réforme à la SNCF a fini par aboutir, on avait du mal à y croire au début, aujourd'hui il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF, mais la clause du
gouvernement. Mais l'emploi à vie a toujours été une anomalie dans un régime démocrate et républicain, pardon, mais personne aujourd'hui ne veut d'un Emmanuel Macron élu à vie, personne ne veut que nos députés, on est content de vivre dans un régime où nos dirigeants sont régulièrement remis en question au sein d'un processus concurrentiel, où ils remettent régulièrement en question leur poste. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que la notion même de méritocratie va à l'encontre de la notion de statut à vie, qui est une survivance de l'ancien régime. Donc, dans un régime concurrentiel, vous devez être capable de gérer votre main-d'œuvre en fonction des besoins des administrés, en fonction des compétences, en fonction des évolutions technologiques. Songez par exemple que l'État est l'une des rares organisations sur laquelle la révolution technologique et numérique n'a eu quasiment aucune influence en termes de rationalisation de la main-d'œuvre. Est-ce bien normal? Est-ce bien normal? Le fait que la masse salariale n'ait pas beaucoup évolué malgré 20-30 ans de révolution technologique, c'est bien la preuve qu'il y a déjà une anomalie dans la gestion des ressources humaines. Donc non, le statut l'emploi à vie dans n'importe quel secteur est une anomalie. On n'envisage pas qu'une entreprise privée puisse garantir à ses employés un statut d'emploi à vie indépendamment de la manière dont l'environnement évolue.
J'entends vos arguments. On verra jusqu'où ira Stanislas Guérini dans sa volonté de réforme de la fonction publique.
C'est plus de la provocation qu'autre chose.
Je pense, j'en parlais avec Olivier Babou avant l'antenne, entre ce qu'on dit et ce qui... Et sera.
Non.
Il y a sans doute.
C'est de la provocation pour faire passer d'autres choses, notamment la précarisation des chômeurs encore accrue.
Là, on pourrait. Enfin, j'ai pas mis dans les sujets du jour la réforme de l'assurance chômage.
On parle pas assurance chômage ce matin.
Vous voulez qu'on parle de l'assurance chômage?
Non, mais protectionnisme.
Allez, on a 4 minutes pile. Donc, Bruno Le Maire, à peu près comme pour les voitures, le bonus écolo, il veut que les aides à la rénovation, donc MaPrimeRénov et les certificats d'économie d'énergie, les CEE, soient principalement centrés sur les pompes à chaleur qui ont été fabriquées en Europe, histoire de dire, sans dire, qu'on veut plus des pompes à chaleur chinoises. Oui. C'est du protectionnisme.
Ah oui, et c'est très bien.
Pas droit au but, s'il vous plaît, sur les réponses.
Juste, les États-Unis, les Chinois, ils ne se gênent pas sur le protectionnisme. Nous, on est naïfs, on fait passer la concurrence avant les intérêts industriels du pays et de l'Europe. Je suis désolé, il y a un moment où il faut remettre en cause la politique de la concurrence et faire ce que font les Américains, les Chinois, sinon on ne s'en sortira pas.
Oui, là où je vous rejoins, c'est que l'Amérique est protectionniste.
Oui.
À plein de niveaux différents, avec plein d'armes différentes.
C'est le bastion, c'est pas une excuse, la nation du protectionnisme.
Bon, en tout cas, Danny Lang défend l'idée.
Complètement.
Je ne vais pas vous rappeler les critères du bonus écolo, mais c'est très très clair. Voilà, ça a été habilement construit
de manière à ce que... Mais tous les bonus écolo, toute la rénovation écologique devrait être protectionniste.
Et je comprends aussi l'argument de Bercy de dire j'en ai marre de dépenser des milliards d'aides pour aller enrichir.
Je trouve que là encore, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre à la fois du fait que la transition écologique sera inflationniste et évincer des biens et des services environnementaux au seul motif qu'ils sont chinois et étrangers. À un moment, il faut choisir. Si le but, c'est de diffuser le plus possible les technologies qui permettent de décarboner, et bah, tout est bon à prendre. Si les meilleures pompes à chaleur sont chinoises, et bah, elles sont chinoises. Du reste, le protectionnisme écologique est une imposture. Aucune nation ne détient à elle seule l'intégralité des ressources naturelles, économiques, financières pour produire les biens et les services environnementaux. Vous avez besoin d'une division internationale du travail, et si vous vous en passez, vous aurez beaucoup plus de mal à produire, commercialiser, industrialiser les biens et les services environnementaux.
La France le sait très bien. Le nucléaire
qui explique nos bonnes performances environnementales n'a pas été développé dans un contexte autarcique. C'est une technologie américaine qu'on a achetée, la fameuse licence Westinghouse.
Donc
vous savez bien que si on avait fait un choix protectionniste à l'époque, on se serait infligé une perte de chance et on aurait peut-être une énergie moins beaucoup plus carbonée. Donc non, on a besoin de la division internationale du travail, on a besoin d'une circulation des connaissances. Et donc, si les Chinois sont meilleurs sur les pompes à chaleur, eh bien, c'est très bien. À nous de trouver des créneaux.
Je donne la parole.
On a un avantage comparatif.
Ce qui inquiète l'Europe, c'est qu'on les craint meilleurs sur la pompe à chaleur, meilleurs sur le panneau solaire, meilleurs sur la voiture électrique.
Les Chinois, de toute façon, ne peuvent pas subvenir aux besoins de toute l'humanité. Donc, même s'il y avait 1,5 milliard de travailleurs dans la transition écologique, il y aurait toujours des parts de marché à prendre ici.
Olivier Babeau, pour clore le sujet. Ah, j'adore ce sujet. Il nous faut une grosse demi-heure.
Je suis plutôt d'accord avec Dany. Alors, d'abord, effectivement, le risque, c'est quand même. Oui, pour bien terminer, mais
avec socialo-communiste.
Un, c'est vrai. Bon, alors, le risque, c'est quand même que ça soit
Staline sort de ce corps.
Modulo. Le risque, c'est que oui, ça soit inflationniste, évidemment. On ne peut pas se plaindre de l'inflation et de l'autre côté dire qu'il faut être protectionniste. Et puis deux, bon, on n'est pas tout à fait. Il ne faut pas que ça soit une raison pour ne pas faire d'efforts nous-mêmes et se dire, ah bah, on peut être mauvais parce que de toute façon, on est protégé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a été extrêmement naïf. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de géants européens depuis très longtemps et en permanence détruire tous les gens et toutes les productions et être tellement naïf qu'on n'impose pas chez nous les conditions que les autres imposent. Finalement, c'est de la concurrence loyale. Il faut que chacun ait les mêmes niveaux.
Et pourquoi les Chinois sont meilleurs? Ils ont copié les brevets sans les payer.
Dani, j'adore ce débat et en fait, mes oreilles sont réceptives à l'ensemble de vos arguments. J'arrive pas à trancher d'un côté totalement ou de l'autre totalement. J'entends bien celui qui dit, je peux pas continuer à produire dans les conditions qu'on m'impose
mais
ça c'est dans les bouquins, faire gaffe
pour tout le monde. Mais non, mais les Chinois ne pourront jamais subvenir aux besoins de toute l'humanité, combien même ils seraient bons partout.
Mais le protectionnisme, c'est pas la Corée du Nord.
Il y aurait toujours besoin de produire en Europe. Opposer le made in China et le made in Europe quand on voit l'interdépendance des chaînes de valeur, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens.
Je vous promets qu'on recommencera. On fera également, si vous voulez, la réforme de l'assurance chômage. Très bon papier.
Ricardo, priez pour nous.
Pardon, Ricardo. mais quelquefois, si vous voulez. J'aime beaucoup Ricardo, si vous voulez, Frédéric Bastiat, mais nous sommes en 2024 et l'ensemble et l'intégralité de ce qu'ils ont écrit ne s'applique pas forcément.
Oui, et notamment.
Le jeu des avantages comparatifs.
C'est les avantages absolus aujourd'hui.
Mais les avantages.
C'est Smith.
Le jeu des avantages comparatifs, c'est quand même être à l'économie ce que l'héliocentrisme est à l'astronomie.
Je suis d'accord avec l'idée que la théorie des avantages comparatifs a quand même de l'avenir aujourd'hui, par exemple.
Ah non, mais là, je suis en désaccord complet.
Aïe.
Les avantages comparatifs,
on a fini.
Les avantages comparatifs, vous les pratiquez chaque fois que vous sortez votre carte bleue. Vous ne faites pas vos médicaments tout seul.
L'assurance chômage. Très bon papier de Jean-Marc Vittori qui dit c'est la bonne réforme, pas au bon moment, là, ce matin. On en reparlera. Je pense qu'il a complètement raison. C'est fini.
Cette note soviétique.
Je vous dis ça, le Ferga Nazière et Olivier Bagnot. Dany Lange, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.